J'en viens à la présentation de notre conférencière d'aujourd'hui. Il s'agit de Violette Rey qui va nous parler des problèmes de l'Europe à l'Est et des Balkans. Violette Rey est née en 1943. Et, encore une fois, nous donnons les dates de naissance, y compris pour les femmes. Hein, c'est très important ici, c'est ma conviction, c'est que c'est toujours important de savoir de quelle génération fait partie un chercheur, un savant, etc. Quand est-ce qu'il s'est formé, etc. Bon. Elle est ancienne élève de l'École normale supérieure de Fontenay, agrégée de géographie, docteur de troisième cycle et docteur d'État. Sa carrière, elle a commencé comme chercheur dans les années 67-69 en Roumanie. Ensuite, elle est devenue maître de conférence de géographie à l'Université de Paris 1. Depuis 86, elle est professeure à l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, ce qui fait que maintenant, elle est en transit entre Paris et Lyon, puisque l'école s'est installée à Lyon depuis 1999. Elle est spécialiste de géographie régionale et rurale, spécialiste notamment de l'Europe centrale et balkanique et de l'organisation territoriale de cette région. Ses publications sont nombreuses, beaucoup de choses sur la Roumanie, la Tchécoslovaquie, les campagnes d'Europe centre-orientale, et notamment les Europes orientales dans la géographie universelle tome 10, hein, donc c'est vraiment un ouvrage de référence et de fond, les Europes orientales, en 1996 chez l'édition Belin Reclus. Voilà, je lui passe la parole pour une cinquantaine de minutes, et puis ensuite elle répondra à vos questions. Merci.
Tout d'abord, merci de m'avoir invité et fait l'honneur de participer à ce cycle de grandes conférences. Et bonjour à toutes et à tous qui êtes ici, je pense, par curiosité, mais plus encore par sympathie, pour ce que l'on appelle souvent aussi l'autre Europe. Alors, dans la perspective de l'avenir pour l'Europe, on m'avait proposé un titre, l'Europe centrale, l'Europe balkanique. Ce titre, je n'en ai pas voulu, je l'ai remplacé par les Europes orientales et j'ai ajouté la force des différences. Pourquoi ? Parce que ce titre souligne l'importance de la notion de différence au sein de ce qui fut l'Europe sous tutelle soviétique et modifie la perspective. Je vais m'en expliquer un peu plus. Europe centrale et Europe balkanique font référence à des réalités de civilisation, de culture, qui sont très vivantes, mais qui ne me paraissent pas couvrir au mieux les dynamiques actuelles. Ces deux termes ont été construits au cours du XIXe siècle, ont été beaucoup utilisés au début de la décennie 90, mais en opposition l'un par rapport à l'autre, avec d'un côté, pour l'Europe centrale, l'idée d'Europe civilisée, apte à l'entrée dans la communauté, et du côté de l'Europe balkanique, une idée de confusion, d'imprévisibilité, de violence, et donc un espace qu'il serait préférable de laisser à l'écart. Or, quand on observe les lieux, quand on observe les moments où les différences apparaissent, la manière dont elle dure, dont elle se renouvelle, cette distinction centrale balkanique perd une partie de sa portée. Mais en revanche, se précisent les mécanismes qui concentrent, qui accumulent les différences sur l'ensemble de cette portion d'Europe et lui donnent une individualité que j'ai appelée « espace d'entre-deux », c'est-à-dire un espace où les forces externes qui sont en compétition, pèsent davantage que les forces internes pour construire l'architecture de cet espace et où l'expérience du temps est sous le signe de l'adversité, j'y reviendrai. Par ailleurs, j'ai hésité entre deux termes pour qualifier ces différences, richesse ou force. On sait que la différence, la diversité, ce sont des notions actuellement très valorisées dans le contexte de la mondialisation. On prend peur de la perte des différences, du recul des diversités et des risques d'appauvrissement global que ces phénomènes impliquent. Or, bien qu'exceptionnellement riche en différences, et à ce titre, pourquoi pas, quintessence de l'Europe, puisque l'on fait des multiples différences une spécificité du tout petit continent européen, je n'ai néanmoins pas retenu le terme de richesse des différences, mais le terme de force. Le terme de force contient à la fois la richesse et la violence, l'idée de ressources fécondes, mais aussi de conflits répétés, ce qui me paraît être la situation de cet espace. Ici, en effet, les différences qui séparent, qui cloisonnent, sont majoritaires, alors que sont minoritaires les différences qui sont en complémentarité et facilitent les liens. Toutes ces différences contrecarrent les constructions de ressemblance, alors que ce sont les phénomènes de ressemblance qui permettent une certaine forme d'indifférence et qui abritent la cohabitation, l'intégration, en un mot, les convergences. Alors, n'y a-t-il pas comme un paradoxe de la différence dans cette partie de l'Europe? Comme si l'excès de différence, leur constant renouvellement, allait à l'encontre de la valorisation des richesses contenues aussi dans l'idée de différence. C'est ce paradoxe de la différence que je voudrais vous présenter de trois manières. D'abord, à travers la force de la fragmentation territoriale politique, ceci me conduira ensuite à mettre l'accent sur la violence avec laquelle se vivent les questions identitaires ici. Et enfin, j'aborderai les différenciations qui mettent en interaction dans la perspective de l'élargissement de l'Union. Alors, envisageons d'abord la fragmentation politique. Dès 1990, l'étonnement et parfois la déception ont été grands en Europe occidentale. On imaginait que la sortie du communisme, ce serait immédiatement les décollectivisations, les dénationalisations, et on découvrait que la première place revenait aux questions de construction politique et d'identité territoriale. C'était le début de cette période de fragmentation des États qui remettait en cause toute l'architecture européenne. Sur l'espace des 8 États de l'Europe de l'Est, existent à ce jour 12 États, plus 6 États nouvellement indépendants sur la bordure orientale. Alors comment est-on arrivé à ce niveau de fragmentation, alors qu'à l'Ouest, justement, la construction supranationale progresse, et qu'il y a donc deux mouvements inverses? Le rappel de l'évolution des territoires politiques depuis le XVIIIe siècle va, je crois, me permettre d'éclairer ce présent de la fragmentation. En effet, en moins de deux siècles, par une suite de basculements d'influence, tantôt vers l'Est, tantôt vers l'Ouest, se sont succédées ici trois constructions de territorialité politique fondées sur des logiques totalement différentes. Et à chaque fois, il y a une durée courte des constructions, une production intense de différences et toujours des frontières dont le tracé change. Prenons la situation en 1815, quand à l'issue du congrès de Vienne, on refait la carte de l'Europe. Une carte très simple dans la partie centrale. Trois vastes unités impériales, ottomanes au sud, habsbourgeoises au centre, prussiennes au nord, et prolongées dans la même logique par l'Empire tsariste plus à l'est. Sous le filet de ces vastes organisations impériales, il y a une diversité de peuples qui est très grande et qui se répartit en mosaïque, d'autant plus menue que l'on est proche des frontières. Aux marches des empires sont accumulées des groupes nationaux divers chargés de repeupler les zones dévastées par la répétition des conflits, de garder militairement les frontières. La Bosnie-Herzégovine est le cas extrême de cette configuration. En 1920, la situation est totalement différente. Et je crois que ce n'est pas céder au culte du souvenir de l'armistice du 11 novembre 1918, en ce jour de 11 novembre 1920, que de porter une attention aux résultats des traités de 1920. Résultat qui a abouti à une fragmentation des territoires politiques de cette région et qui sont eux-mêmes la suite, l'aboutissement d'une lutte qui, tout au long du XIXe siècle, a conduit à démolir les grands empires au profit des États-nations. Tous ces États font le choix d'une constitution unitaire centralisatrice, à l'inverse complet de ce qu'il en était en 1815. Cet espace politique est apparemment devenu très semblable à celui de l'Europe occidentale voisine. Toutefois, malgré le vœu des vainqueurs d'associer une nation et un territoire, malgré cela, les frontières coupent sur les franges de la plupart des aires de nationalité. Des fragments de nations deviennent brusquement des minorités, révoltées, irrédentistes. Et dans cette configuration nouvelle, l'Occident a influencé de deux manières, à travers son modèle de l'État-nation et par le rôle aussi des grandes puissances victorieuses qui ont infléchi les tracés des frontières au profit des peuples amis, aux dépens des peuples vaincus. Troisième temps, 1945. 1945, qu'en est-il de cet espace ? Tout d'abord, les mondes juifs ont disparu. Or, ils avaient trouvé dans les empires leur lieu de vie et d'activité depuis plusieurs siècles. L'organisation politique, malgré l'apparence du maintien des États créés en 1920, cette organisation politique enregistre trois macro-changements. Premièrement, une très forte simplification de la carte des nationalités, en particulier avec l'évacuation forcée des plus de 6 millions d'Allemands qui étaient la plupart installés depuis des siècles en noyaux dispersés dans l'Europe centrale et balkanique. Ceci va laisser meurtries, fragiles, les zones qu'ils ont quittées, et on en trouvera des effets jusque dans cette décennie. Deuxième grand changement, une large translation vers l'Ouest de la frontière soviétique qui taille sur plus de 100 km, ampute la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie. Enfin, troisième changement et le plus fort, c'est l'apparition de cette nouvelle coupure territoriale, celle du rideau de fer, qui tranche, isole l'Europe continentale de l'Europe atlantique, la recentre à l'Est. Il y a à ce moment-là, le démarrage d'une nouvelle bifurcation de la logique d'organisation, une intense production de différences, fermeture des frontières, collectivisation, étatisation, etc. Et on est donc dans un nouveau changement complet. De cette rétrospective, je voudrais en dégager trois conséquences. D'abord, c'est qu'ici, les grandes puissances qui sont extérieures à cet espace, ont un rôle périodiquement déterminant sur l'avenir interne de cet espace. Ensuite, le poids des frontières politiques, qui est ici un poids tout à fait exceptionnel. On sait que les frontières sont intrinsèquement porteuses de discontinuités, de formes de cloisonnement, qu'elles créent de la différence territoriale, puisqu'elles ont justement pour objet de délimiter l'espace au sein duquel seront appliquées les mêmes règles institutionnelles, économiques, sociales. Elles laissent des traces qui sont parfois plus que des symboles, du passé, mais on peut toujours les réinstrumentaliser dans un contexte nouveau. À chacune des modifications, des grandes dates de modification de frontières, il y a des fragments d'espace, des petites plaques territoriales qui acquièrent une nouvelle singularité, liée à leur changement d'appartenance et aux expériences vécues qui en découlent. Ces petites plaques qui se dessinent entre les frontières antérieures et les nouvelles frontières ont des noms qui sont connus, mais parfois des noms qui ne sont pas encore connus. Silésie polonaise, Silésie tchèque, Banat, Voïvodine, etc. Dans ces petites plaques, la loyauté politique devient vite un dilemme. Quand sur la durée d'une vie, on change plusieurs fois d'appartenance étatique, et donc d'enrôlement militaire, tout en restant au même endroit. Alors, parfois, il est bien difficile de savoir, de vouloir se déclarer d'une nationalité lorsque les circonstances sont mauvaises. Enfin, les frontières ne produisent pas simplement des différences d'organisation territoriale, mais elles sont aussi des formes de barrières qui freinent les échanges, les contacts, ralentissent les diffusions d'innovations d'une manière générale. Troisième conséquence de cette évolution historique particulière, soumise à une alternance si contrastée d'influences extérieures, troisième conséquence, cela favorise une expérience du temps particulière. C'est un temps des adversités répétées. Le manque de durée des situations successives provoque une instabilité des configurations identitaires, empêche aussi bien l'accumulation que l'assimilation, voire même que l'oubli. Ce manque de durée se vit comme autant de retours à des temps antérieurs. Il suscite des prémices de renouveau, des inventions, des avant-gardes, sans avoir le temps d'atteindre à des maturités. Et en cela, le manque de durée s'oppose au progrès qui a besoin d'un peu de lenteur. Enfin, l'anxiété du temps découle de cette expérience, tout comme le sentiment de ne jamais être maître de son devenir, parce que c'est le temps des autres qui interfère sur le temps de sa propre culture. Un sentiment de devoir périodiquement tout recommencer à zéro, d'être toujours néanmoins en situation de retard. C'est ce que l'écrivain polonais Miłosz a superbement appelé notre complexe géographique. Il est ce mode d'être propre à un espace d'entre-deux qu'il nous est, je crois, très difficile de comprendre. C'est donc la question identitaire que je voudrais maintenant développer comme le deuxième aspect du paradoxe des différences. La répartition concrète des différences politiques à l'intérieur de l'Europe de l'Est depuis 1989 est imbriquée dans d'autres différences, inscrites sur de très longues durées et qui contribuent à cette expérience particulière de l'identité. À l'amont de tout cela, il y a une histoire du peuplement, beaucoup plus complexe et riche de diversité de peuples et de langues que chez nous. Cette région médiane de l'Europe a emmagasiné jusqu'au XVe siècle des vagues successives de migrations et d'invasions, dont les incursions plus à l'ouest durent rebrousser chemin, parce que nous étions déjà très installés, pour s'installer ici, précisément, entre le Saint-Empire et l'Empire byzantin, avant que ce dernier ne tombe sous la poussée ottomane, la dernière en date des poussées orientales. Il y a donc ici une sorte de piège à peuple, entre l'Occident et le vaste monde des steppes, et la région rassemble pas moins de trois grandes familles linguistiques, l'indo-européenne et sept rameaux dans cette famille, la finno-ougrienne avec le hongrois, l'altaïque avec le turc, et il y avait la sémitique quand les juifs étaient là nombreux. Donc une richesse linguistique extraordinaire au sein de l'Europe. Et avec une tradition jusque dans les villages d'une polyglossie naturelle, bien avant le multilinguisme savant des élites urbaines. Alors que signifie, à partir de 89, la volonté de retrouver accès au droit à la différence? Accès au droit à la différence, ce fut une expression très très souvent répétée dans les années 90-92. Cette volonté est d'abord une exigence de reconnaissance identitaire, qu'à l'intérieur le communisme avait plutôt refoulé et qui se heurtait alors beaucoup plus à l'ignorance des Occidentaux. Les anecdotes foisonnent sur notre façon occidentale de mélanger les noms de lieux, les appartenances, et cela blesse toujours les personnes et les peuples de se sentir si indifféremment confondus. Or, l'exigence identitaire fait surface à chaque moment d'incertitude, de crise. Bien que fondée sur le principe d'une différence excluante, l'identification, en fait, est toujours multiple et participe de plusieurs niveaux. En effet, l'identification décide de la coupure entre ce qui va devenir semblable et de ce qui sera autre, différent. Mais c'est une décision, une intention. L'identification a besoin aussi de continuité pour donner la confiance, la sécurité. Mais elle nécessite enfin la reconnaissance des autres pour fonctionner. Alors bien sûr, il n'est pas difficile d'imaginer combien la répartition des fragmentations politiques que je vous ai présentées précédemment empêche ici, d'une part, l'émergence de larges systèmes identitaires homogènes, mais en contrepartie, conserve, renouvelle la très grande diversité des expériences identitaires. Et je voudrais vous en donner trois éléments clés: la religion, la langue et le passé partagé. L'appartenance religieuse, elle tient vraiment au socle de l'identité. Elle fournit la plus grande longévité culturelle et le caractère le plus exclusif, parce qu'on n'adhère pas à plusieurs confessions comme on parle plusieurs langues. Or, la région offre une diversité religieuse, historique et une tradition de tolérance dont l'Europe occidentale n'a pas l'équivalent. Cette région n'a pas expérimenté la règle occidentale consécutive aux guerres de religion, selon laquelle la religion du prince dictait la religion des sujets. Plus, la région fut le refuge régulier de groupes persécutés à l'ouest, réformés luthériens, calvinistes, juifs séfarades quittant l'Espagne pour les villes ottomanes, juifs askénazes appelés par le roi de Pologne pour valoriser son royaume, etc. La région est aussi traversée par la ligne de contact entre les deux chrétientés, orthodoxe et romaine, ligne théoriquement issue du grand schisme de 1054, en fait déjà enraciné dans les airs des deux alphabets de l'Antiquité. Et sur cette ligne de front, plus même que de contact, une hybridation s'est opérée en certains endroits avec l'invention de la confession gréco-catholique, appelée souvent uniate parce qu'elle associe le rite orthodoxe et l'obédience romaine. Or, cette confession témoigne de la richesse spirituelle orthodoxe. On n'a pas voulu s'en séparer à l'occasion du rapprochement institutionnel avec Rome. Autre élément de la diversité religieuse de cet espace, la présence musulmane. L'Europe musulmane existe et a une histoire. Elle existe dans les Balkans par une implantation qui remonte au XVe siècle, au moment même où la Reconquista, la chasse d'Espagne. Les musulmans ne constituent pas là un bloc homogène. Ils sont soit les descendants de populations ottomanes qui sont néanmoins restées après 1920 et parlent turc, soit des populations chrétiennes qui se sont converties et qui habitent surtout dans les zones montagneuses, aux confins des frontières impériales. Et ces populations parlent diverses langues, serbo-croates pour les musulmans bosniens, bulgares pour les pomaques, albanais pour la majorité des albanais. Ainsi, la péninsule balkanique présente une mosaïque religieuse très complexe. Toutefois, l'orthodoxie domine, car elle n'a pas subi une conversion imposée pendant la période ottomane. Par contre, sous ce système politique, s'est opérée une symbiose entre la religion et la langue qui est devenue porteuse d'une identification réciproque. Et cette symbiose a été renforcée par la structure polycentrique de l'orthodoxie, qui n'a pas d'organe centralisateur transcendant les nations à l'image de la papauté pour le monde catholique. Aussi, à partir du XIXe siècle, les églises autocéphales se sont multipliées, de celle de la Bulgarie jusqu'à celle de la Macédoine, la dernière en date qui n'a pas 30 ans, et ces églises s'identifient parfois excessivement à l'avenir politique de leur nation. Aussi est-il tentant, dans la crise présente, d'interpréter les clivages, les conflits, comme la résurgence de vieux antagonismes religieux, voire même d'en faire la clé de conflits futurs. Néanmoins, sur le terrain, il s'agit surtout d'une instrumentalisation des différences religieuses pour des fins de prise de pouvoir territorial et politique, et puis parfois même à des fins de plus rapide reconnaissance occidentale. Combien de fois dans les conversations en Europe centrale on a voulu faire de l'identité orthodoxe un critère d'exclusion de l'Union, au nom de ce qu'elle n'était pas occidentale, au lieu d'en envisager mieux de comprendre le potentiel de spiritualité. Je vous ai dit, autre dimension de l'expérience identitaire de longue durée, la langue. La langue, comme marqueur de l'identité, joue un rôle décisif. Les intellectuels promoteurs des idées nationales ont forgé des langues à partir des parlers populaires, ont mobilisé des mythes fondateurs, ont suggéré l'origine naturelle, immémoriale des langues, et ils ont beaucoup contribué à l'ethnicisation de l'identité, à son ahistoricité. Souvent s'est opéré un élargissement de la conscience d'appartenance à la collectivité nationale en création, mais inversement un repli de l'aptitude au dialogue intercommunautaire, un recul des polyglossies. La langue de l'école de la nation est devenue la langue de la nation dominante. Mais les autres langues, confinées à l'intérieur des familles, n'ont pas automatiquement disparu. Par ailleurs, ce travail sur les langues a consolidé cette ligne de partage entre les alphabets grecs et latins. Une ligne de partage qui est aussi une ligne de rupture au cœur même de la langue sud-slave, écrite en cyrillique côté serbe, en latin côté croate. Voici comment l'écrivain serbe Dajnolić cible cette question de l'identité, le vécu de la différence à travers l'alphabet. La frontière entre les écritures cyrilliques et latines te traverse le cœur. Tu aimes la première, tu utilises de plus en plus la seconde. Tu es mal à l'aise par rapport à l'une et à l'autre. Tu n'es ni en toi, ni en ce qui est censé te remplacer. Enfin, associée à la langue et à l'obsession des origines, l'affirmation de l'ancienneté de la culture est un argument supplémentaire pour l'invention de l'identité nationale. Or, cet argument de la différence d'historicité est tout à fait redoutable parce qu'il révèle le poids des représentations que les autres se font de vous dans l'accès à votre propre identité et révèle aussi, là encore, le rôle des influences occidentales. En effet, les corpus nationalistes doivent beaucoup aux inspirations prises dans les cultures occidentales. La référence à une haute culture fut un argument tout à fait fort dont a bénéficié la Grèce, mais pas du tout la Serbie, alors que l'une et l'autre, pourtant à la même date, en 1831, ont obtenu le premier pas de reconnaissance de leur indépendance. L'une avait l'antiquité grecque, l'autre pas. Pour mesurer l'ampleur sous-jacente de ce phénomène de représentation, voici une autre citation du milieu du XIXe siècle. Ce qu'Engels répondait à Bakounine à propos des Slaves. Les Slaves, des peuples, à l'exception des Russes et des Polonais, qui n'ont jamais eu d'histoire qui leur fût propre, qui, ayant à peine atteint le niveau de civilisation le plus bas et le plus primitif, tombe aussitôt sous une dépendance étrangère. Ces peuples ne sont pas capables de vivre et ne pourront jamais parvenir à une quelconque autonomie. Ce texte n'a pas deux siècles et il fut écrit au moment de l'émergence des consciences nationales. Alors, on peut imaginer la chance qui restait aux Albanais, qui se considèrent comme les descendants des autochtones illyriens, pour être reconnus avec de telles images mentales. Ce fut donc une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles le congrès de Berlin, ce fameux congrès de 1878 qui a déterminé beaucoup du devenir des Balkans, a installé des frontières en pleine zone montagneuse de peuplement albanais, et les conséquences, on les voit actuellement. Donc, en clair, cet argument de l'ancienneté, de la différence d'historicité, ne peut être retenu comme principe de partage territorial. Certes, cette ancienneté est aussi au cœur de l'identité culturelle, mais l'argument est vicié par l'implicite de l'inégalité qu'il véhicule, comme si l'ancien était supérieur au récent et donc devait avoir plus de droits. Ces trois éclairages par la religion, la langue, la mobilisation du passé n'épuisent ni la diversité des questions identitaires ici, ni la complexité des processus de construction identitaire. En particulier, je n'ai pas abordé le cas des peuples qui ne réclament pas de revendications, n'ont pas de revendications nationales, mais qui ont une conscience communautaire, comme le sont par exemple les peuples tziganes. Je tiens à souligner, en conclusion de cette réflexion sur le processus identitaire ici, je tiens à souligner particulièrement la richesse incluse dans la diversité des identités. Elle me paraît le trait le plus distinctif de la région, comme si ici les conditions étaient particulièrement favorables pour qu'en permanence surgissent, naissent, de nouvelles identités. De nouvelles identités, c'est-à-dire de nouvelles formules pour vivre l'expérience d'être au monde. Cependant, ces diversités sont régulièrement vécues comme de tristes richesses qu'il faut refouler, amputer. Alors, à quand de savoir les faire cohabiter mieux par une culture intérieure du multiple ou un peu d'indifférence amortirait l'exclusivisme des différences. J'en arrive maintenant au troisième aspect du paradoxe de l'excès de différence. C'est celui qui est introduit par les différences graduelles, potentiellement complémentaires, qui sont à l'œuvre dans le rapprochement avec l'Union et dans la recomposition du continent. La bifurcation post-communiste est un moment fort, je vous le montre, d'activation des deux catégories de différences. Si les différences à caractère exclusif que je viens de traiter ont pris le devant de la scène, les autres différences fondées sur les inégalités, les complémentarités, prennent aussi une force nouvelle avec le phénomène de l'ouverture internationale produite par la chute des murs. Alors, cette catégorie de différences graduelles, complémentaires, va-t-elle basculer vers des inégalités ou bien s'orienter vers des interdépendances motrices de développement? Pour cette catégorie de différences, je voudrais préciser un peu son fonctionnement. Son fonctionnement qui est inscrit dans les champs de force de l'espace socio-économique, en particulier à travers les réseaux de villes et les réseaux de transport. Ces champs de force s'organisent autour de pôles, de centres, de régions urbaines, qui correspondent donc toujours au noyau de concentration de peuplement, là où se rassemble la diversité maximale des activités. Spécialisation, échange, partent de ces pôles, s'étalent vers les périphéries en fonction de la distance au centre émetteur et récepteur. Les frontières jouent encore, mais d'une manière secondaire. Par ailleurs, on doit au préalable garder à l'esprit la stabilité tout à fait exceptionnelle des concentrations de peuplement, une stabilité qui montre que les pôles, une fois constitués, sont indifférents presque aux systèmes économiques, politiques, idéologiques qui se succèdent. Or, à la différence de l'Europe occidentale, pôle centré depuis des siècles en termes de concentration de peuplement autour du noyau rhénan-lombard, eh bien, à la différence de l'Europe occidentale, l'Europe centre-orientale n'a jamais fonctionné comme un pôle de concentration de peuplement, mais comme une périphérie. Je l'ai dit, périodiquement, il a fallu repeupler, déplacer des groupes, faire appel à des étrangers. Le fonctionnement comme périphérie de cet espace a été encore plus net pour la modernité, née elle aussi dans le noyau occidental. Ainsi, la révolution industrielle s'est propagée en auréoles successives, d'ouest en est, et les provinces les plus lointaines n'en ont eu qu'une expérience brève, sommaire, avec peu d'équipement, avant l'arrivée du communisme. De plus, dans cette diffusion de la modernité technique de la révolution industrielle, les contextes culturels ont accentué positivement ou négativement, la capacité de réception. Ces contextes culturels, quels étaient-ils? L'espace inclus jusqu'en 18 dans l'Empire austro-hongrois a bénéficié le plus de cette réception de la modernité. Elle cumulait l'effet direct du voisinage et la proximité culturelle germanique. Mais en revanche, la pénétration de la modernité a été beaucoup plus lente, beaucoup plus limitée dans l'espace balkanique, qui était déjà loin et où l'héritage de l'organisation ottomane ne laissait pas de point d'appui. C'est donc à ce type de différence inégalitaire, de dissymétrie centre-périphérie, que s'est attaqué le système de modernisation socialiste après 1945. Rompant avec la croissance spontanée et ses dissymétries, il a imposé des répartitions régulières d'usines, de villes. Dans chaque pays, il a favorisé plutôt les régions orientales, qui étaient les plus retardées, parce que les plus éloignés. Le résultat en a certes été une réduction des différences par transfert, par homogénéisation, mais sans que soient réellement construites de nouvelles interdépendances qui soient dynamisantes et à travers lesquelles se crée la croissance. Imposée hiérarchiquement de l'extérieur, la réduction des inégalités a cassé la concurrence, la complémentarité entre les zones, elle a produit une forme d'homogénéité globalement appauvrissante à son tour. Alors le système disparu, il en reste des espaces assez inertes, assez peu différenciés régionalement. Mais, à la différence des siècles précédents, l'Europe centro-orientale a eu une croissance démographique supérieure à l'Europe occidentale. Et la différence de niveau de peuplement de part et d'autre du rideau de fer n'existe plus. Les densités humaines moyennes de l'ordre de 100 habitants couvrent l'ensemble de l'Europe. Il existe désormais un continuum de l'espace de peuplement jusqu'au contact avec la CEI. Et ceci est une situation historiquement nouvelle. Alors la question est de savoir ce qu'il va advenir de ce continuum de haute densité européenne qui n'est pas doublé d'un autre continuum en termes de niveau de vie et de développement. En effet, les inégalités qui étaient déjà importantes avant-guerre se sont creusées une première fois pendant la période du rideau de fer et tout aussi brutalement une seconde fois depuis 1989. L'avenir de l'Europe se jouera en partie sur la manière de surmonter ce contraste entre le niveau de peuplement devenu globalement homogène et élevé et les niveaux de développement. Ce contraste présente des risques. Les fractures sociales se multiplient. La fameuse liberté citoyenne de l'après-communisme, eh bien cette liberté manque vite d'attrait quand les inégalités et le chômage explosent, quand l'exclusion par la misère se répand là où on l'avait oublié depuis 40 ans et quand l'émigration, bien sûr, reprend. Mais ce contraste est aussi porteur de chances et leurs valorisations peuvent être multiples. Ici, dans cette région, les main-d'œuvre jeunes qualifiées sont encore nombreuses. Je dis encore parce qu'elles ne le seront peut-être plus pour bien longtemps, à la fois par l'émigration, à la fois par la dégradation des systèmes d'éducation universitaire et scolaire générale. Autre chance et valorisation possible, ce désir très général d'une amélioration de niveau de vie avec ce que cela implique comme possibilité de remise en activité et de développement économique. Enfin, les expériences culturelles qui ont une grande richesse et dont j'ai fait un écho précédemment. Mais encore faut-il que ces valorisations potentielles ne soient pas bloquées ou perverties par d'autres mécanismes. Et c'est ce que je voudrais aborder, ce problème des autres mécanismes à l'œuvre dans le rapprochement intra-européen, avec en arrière-plan cette idée que je vous ai donnée, le contraste, la discordance entre un niveau de peuplement et un niveau de développement. Alors, comment fonctionne le rapprochement intra-européen ? Il fonctionne sur deux registres. Celui, justement, des mécanismes spontanés du libéralisme, mais celui aussi des normes institutionnalisées par l'Union. Les mécanismes spontanés revalorisent les différences qu'on avait atténuées, mais surtout accentue les disparités. Et le fonctionnement de dépendance entre le centre occidental et la périphérie orientale a repris très rapidement ces 10 dernières années. Bien sûr, les pays et les régions au voisinage de l'Union reprennent le maximum de l'avantage. Des entreprises nouvelles s'installent, profitent des différentiels de salaires, de taxes. À l'inverse, les pays et les régions les plus éloignés sont pénalisés. Il y a les gagnants et les perdants des positions. Ces rapides redifférenciations qui sont permises par l'avantage comparatif de certaines localisations ont très vite alimenté, conforté l'interprétation du retour à la situation de jadis, du retour aux différences d'avant-guerre, à l'opposition entre Europe centrale et Europe balkanique. En plus, à côté de ces mécanismes très spontanés de centre-périphérie, il y a les nouveaux mécanismes de contact et d'interdépendance qui fonctionnent directement avec les réseaux de connexion de télécommunications. Ces nouveaux réseaux permettent une liaison immédiate entre des régions éloignées. Ils exploitent autrement les situations de différence. Les pôles les plus puissants sont comme émancipés des contraintes de voisinage, se renforcent comme des îles décrochées de leur environnement. Les villes capitales sont les plus illustratives de ce mécanisme. Et elle concentre d'une façon tout à fait exceptionnelle les investissements étrangers aux grandes dames de leurs régions périphériques et de nouvelles tensions se créent entre la capitale et les provinces. Dans cette même logique de nouveaux réseaux, un nouveau nomadisme économique apparaît à travers des diasporas de travailleurs très mobiles qui valorisent, grâce à l'information immédiate, sur les opportunités conjoncturelles de différence, de profit, leur possibilité de s'installer à un endroit ou à un autre. Ces diasporas ne cherchent pas une territorialité stable à l'arrivée. Par contre, elles conservent davantage les ancrages avec les pays d'origine et elles s'activent dans une presque complète indifférence aux appartenances étatiques. Il y a là de nouveaux réseaux d'immigration semi-provisoires qui apparaissent, où cette Europe centre-orientale est à la fois zone émettrice vers l'ouest et zone réceptrice pour des émigrants en provenance de la CEI et de l'Asie. J'ai dit que cet arrimage à l'Union fonctionne aussi à partir des normes à respecter, de l'acquis communautaire à assimiler pour être admis. Et une fois encore, l'avantage des pays les plus proches apparaît, comme s'il y avait une sorte de fatalité contenue dans la localisation géographique. Alors la question pour nous, habitants de l'Union, est, je crois, d'éviter que l'Union, par ses méthodes de construction, ne devienne à son tour directement créatrice de fractures et de divergences dans cette partie de l'Europe, bien que ce soit déjà ce qui arrive. Alors, l'année dernière, l'Union, quand elle a décidé de considérer comme candidat les laissés pour compte, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Lettonie, la Lituanie, par cet acte, a un peu atténué une blessure très profonde qu'elle avait suscité 2 ans auparavant lorsqu'elle avait choisi seulement la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et l'Estonie. Mais entre-temps, les contraintes normatives d'année en année s'alourdissent. Certains inconvénients apparaissent liés à l'idée d'entrer dans l'Union. Tout cela complique, retarde l'échéance d'accès, au point qu'aujourd'hui, il est moins probable qu'en 1997 que la Pologne puisse être prête à la date du premier élargissement. Donc, d'une certaine manière, l'Europe devient se transforme en une sorte de mirage pour certains. C'est pourquoi un regard lucide sur l'avenir proche de la région oblige à reconsidérer la position des pays par rapport à l'Ouest et à l'Est, même si l'Union reste le pôle d'attraction prioritaire. Et je dis que dans cette perspective, une fois encore, la subdivision entre les deux sous-ensembles antérieurs, balkaniques et centrales, resterait sommaire. Où placer la Pologne, la Roumanie, des fragments de l'ex-Yougoslavie? Les recompositions sont plus complexes. Et c'est leur esquisse que je voudrais vous indiquer pour terminer. En effet, au nord, la Pologne est d'abord concernée par la double valorisation de l'axe Berlin-Moscou et de l'espace de la Baltique. Elle veut échapper aux handicaps que provoquerait son statut d'État frontière de l'Union. Elle a eu de longs passés avec ses voisins orientaux, Lituanie, Biélorussie, Ukraine. Ses voisins représentent maintenant de nouveaux partenaires dans un enjeu qui ne peut pas avoir que l'Union pour horizon. La forte composante paysanne de la société polonaise, la diversité des sensibilités provinciales sous le manteau d'une polonité unanime font que ce grand pays, presque 40 millions d'habitants, présente des complications dans une perspective mécanique d'élargissement. Au centre-est, la Roumanie, l'autre grand pays de la région, plus de 20 millions d'habitants, encore plus paysan, et ayant lui aussi une longue frontière avec la CEI. Cet espace, ce pays, souffre durement du manque de proximité avec l'Union, du manque de contact, d'un éloignement général. Partant en plus d'une situation tout à fait désastreuse, laissée par l'enfermement de la dictature nationale communiste, la Roumanie opère très difficilement la transition économique, alors même que politiquement, elle a géré la cohabitation avec la minorité hongroise qui est importante. Elle a signé les traités de reconnaissance des frontières. Elle conduit une politique d'équilibrage territorial. Tout cela reste trop ignoré. Abandonner la Roumanie à ses contradictions internes aggraverait, je crois, sa situation sans profit, tout au contraire, pour l'ensemble européen. Autre ensemble, celui du sud de la péninsule balkanique. Là, les territoires s'émiettent. L'activité économique n'a plus de base. Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Albanie, Kosovo peut-être bientôt. Tous redeviennent les arrière-pays très problématiques de la Grèce et de la Turquie. Cet ensemble méridional de la péninsule balkanique constitue toujours l'espace de contact le plus immédiat entre le monde russo-asiatique, le Moyen-Orient et l'Occident, c'est-à-dire ce que l'on appelle souvent le contact aussi Orient-Occident. Et ici, les enjeux des grandes puissances externes sont toujours aussi présents qu'au siècle précédent, même si leur mode d'intervention semble différent. Et la progression de l'implantation américaine via les bases de l'OTAN paraît une juste confirmation de cette priorité des enjeux internationaux. Immédiatement au nord, la Bulgarie, la Serbie sont également coupées des horizons occidentaux, quoique ouverts sur le monde pontique. Ce sont des pays bas danubiens, en déclin démographique accentué, de culture slave, cyrillique, et leur isolement par fait de guerre pour la Serbie, par grand éloignement pour la Bulgarie, les laisse dans une situation d'indigence économique dangereuse. Enfin, les derniers changements politiques de Belgrade font heureusement entrevoir une reformulation plus positive de la politique internationale vis-à-vis de tout cet espace balkanique. Reste enfin le milieu de la région. S'agit-il d'une nouvelle Europe centrale dans le bassin moyen du Danube? La fragmentation politique, la disparition des populations germaniques, tout cela lui donne une connotation bien différente de son identité de jadis. République tchèque, Hongrie, Slovénie, Slovaquie, partiellement Croatie, présentent des avantages communs. Au contact immédiat de l'Union, ce sont des pays de petite taille qui n'ont presque plus de minorités autres que celles des groupes tziganes, qui ont un long passé habsbourgeois en partage, à la fois culturel et économique, ce qui leur donne une avance. Tout ceci, évidemment, concourt à la meilleure situation par rapport à l'Union, y compris l'homogénéité nationale supérieure aux autres pays. Résultat ici, ne l'oublions quand même pas, des nettoyages opérés il y a 50 ans ou il y a 80 ans. Meilleure situation par rapport à l'Union aussi, y compris par la taille des États, petite, et qui facilite tant la mise en conformité aux fameuses normes européennes. D'ailleurs, l'Union ne s'y est pas trompée en les retenant comme premier candidat. Telle me paraît donc la configuration qui se dessine sur les décombres de feu l'Europe de l'Est. Alors, quelle piste emprunter pour réfléchir à l'avenir de ces Europes orientales et de l'Europe tout court? Je crois qu'il faut tout d'abord accepter pleinement la complexité de cet espace, de ce sujet, une complexité qui est y compris dans les aspects territorialisés et qui sont en général trop ignorés. J'ai tenté avec vous de mettre en face à face deux types de différences pour en comprendre les logiques dominantes. Les différences fondées sur la construction d'une appartenance identitaire sont, à mon avis, des différences enrichissantes parce qu'elles introduisent la diversité qualitative des expériences humaines. Mais encore faut-il que cette diversité soit perçue comme telle sans que s'y substitue l'échelle de valeur allant du supérieur à l'inférieur. Encore faut-il que cette reconnaissance de richesse n'occulte pas l'ambiguïté que contient le sentiment d'appartenance, avec son corollaire d'exclusivité, puis d'exclusion, puis facilement il bascule dans l'affrontement. Alors comment là, mais ici aussi, opérer le travail intérieur qui consiste à repenser notre appartenance, à repenser l'appartenance dans une logique où l'autre est aussi soi-même, où l'identité et la différence sont simultanément inscrites dans nos expériences. Je crois que c'est le défi auquel nous sommes tous confrontés et pour lequel la réponse reste encore à inventer. Quant aux différences graduelles, apparemment non exclusives, et dont la complémentarité pourrait faciliter les liens, je vous ai montré qu'elles n'en sont pas moins redoutables, comme si, actuellement, elles fonctionnent en creusant les inégalités, en provoquant des exclusions territoriales et sociales, lesquelles peuvent à leur tour basculer et se cristalliser en contestations identitaires violentes. Sur ce registre, toutefois, les solutions, sans être simples, me paraissent plus accessibles. La construction ouest-européenne a fait de l'économie sociale une de ses valeurs cardinales. Or, contrairement aux apparences ou même à certains discours, l'aide financière à l'Est n'a rien d'insupportable, surtout si l'on met en regard les avantages économiques que l'on en a déjà retirés. Cette aide pourrait être augmentée sans essouffler l'union. Mais il s'agit d'une part de nous l'expliquer mieux, et puis d'autre part de trouver les modalités efficaces à l'Est pour un bon usage du soutien financier. J'espère peut-être vous avoir convaincu que nous autres habitants de l'Union, nous avons beaucoup à gagner au grand élargissement. Des intérêts politiques, économiques, stratégiques nous y conduisent. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus profond. Je crois qu'il y va de notre chance culturelle de devenir européen. Devenir européen au sens où le philosophe Rémy Brague en a esquissé le style, qui est de toujours chercher ailleurs qu'en soi ce qui nous définit. Je vous remercie.
Vous avez dit, madame, que les traités de 1920, signés après la Grande Guerre, comme on disait à l'époque, ont été conçus par les alliés au profit des peuples amis et aux dépens des peuples vaincus. Permettez que je complète. Car si c'est bien exact que ça a été fait au profit des peuples amis, cela n'a pas été fait seulement aux dépens des peuples vaincus. En quoi ? Par exemple, des peuples comme les Slovaques, les Ruthènes, on a aidé les Tchèques, ça c'était l'internationale franc-maçonne. En quoi les Croates, les Monténégrins, les Slovènes, et j'en passe, ont été des peuples vaincus? Ils ont été vaincus parce qu'on a fait du Milosevic avant l'heure, en faisant ce qu'on pouvait appeler déjà une grande Serbie. Puisque si initialement c'était le royaume des Serbes, Croates, Slovènes, c'est très vite devenu avec le roi Alexandre le royaume de Yougoslavie. Et j'en passe, je voudrais citer aussi les Lituaniens, puisqu'on a laissé les Polonais, le Piłsudski, qui en 14 étaient pro-allemands, c'est bien normal, puisque Varsovie était russe. On a laissé, disais-je, les Polonais s'emparer de ce qui est la capitale actuelle de la Lituanie, Vilnius, Vilno, Vilna, suivant qu'on parle en russe. En lituanien ou en polonais. On a aidé également, en quoi les Moldaves étaient dévaincus, puisque non seulement les Allemands et les Hongrois de Transylvanie ont bien été défavorisés, mais les Moldaves aussi incorporés dans la Roumanie.
D'accord. Donc, je crois. On peut vous poser si la question.
J'arrive à la conclusion.
Voilà.
Oui, j'arrive à la conclusion.
Merci, merci. Allez-y.
C'est que ceci a une conséquence énorme. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ces peuples qui n'étaient ni vaincus par la guerre, mais vaincus par les traités, ont tous été pro-allemands. Les Slovaques avec Mgr Tisot.
Oui,
bien sûr. Les Croates avec Ante Pavelić. Et cela continue, puisqu'on a reproché encore récemment aux Allemands d'avoir été les premiers à reconnaître l'indépendance de la Croatie.
Autre question ?
Je ne sais pas si vous pouvez vous en dire.
On a omis de dire que ça avait été fait aux dépens de ces peuples.
Oui, non, je ne réponds pas à ça, parce qu'on va entrer dans des débats qui... C'est une constatation que j'avais esquissée.
Bonjour. Mon propos n'est pas de défendre Milosevic ni les atrocités qu'il a commises. Il semblerait que la conférence de Rambouillet, qui avait précédé la guerre du Kosovo, et les concurrents étaient parvenus à signer un accord de paix. Après cette signature, il semblerait toujours, je voulais savoir, les États-Unis auraient ajouté deux amendements. L'un, en imposant qu'au Kosovo, il y aurait des élections plus ou moins libres. Et deux, en Serbie, les États-Unis implanteraient une base de l'OTAN. Si nous, Européens, nous sommes blancs dans cette affaire, pourquoi on ne publie pas les 10 accords afin qu'on voit ce que voulaient faire les méchants loups? Pouvez-vous m'éclaircir ce point, s'il vous plaît?
Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Excusez-moi, monsieur.
si nous, Européens, nous sommes blancs dans cette affaire, pourquoi est-ce qu'on ne publie pas les accords de Rambouillet?
Comment voulez-vous que j'y réponde? Je ne suis une universitaire et non pas un acteur politique direct. Là, quand on est en période historique forte, on sait très bien qu'il nous manque en général au moins la moitié de la réalité des informations et des jeux de pouvoir. Donc toute interprétation que l'on peut faire est une interprétation viciée au départ par le manque de connaissances qui fait ensuite l'objet justement de l'analyse historique. Mais on n'a pas un nombre important de vrais documents. Je ne peux pas vous en dire plus.
Je remercie la conférencière pour sa remarquable conférence et je voudrais lui demander ce qu'elle pense du rôle des très nombreuses diasporas de tous les peuples issus de l'Europe centrale dans les deux sens. L'action des gens qui sont sur place sur la diaspora pour influencer les puissances occidentales et l'action des diasporas sur les gens qui ne sont pas partis pour les faire évoluer.
C'est une question très riche de sens et qui est une question qui est très fortement reliée au cœur de ma conférence relative justement à la complexité de l'identité et à la multiniveau des identités. Parce que justement, quand on est en diaspora, on est en partage d'identité d'une manière plus explicite. Alors, c'est sûr que l'on a vu très nettement à partir des années 80 et l'avantage pour les pays, pour les peuples qui, pour des raisons historiques souvent malheureuses, avaient une partie des leurs à l'étranger, mais d'une manière structurée en diaspora. On a vu pour ces pays, je pense à la Pologne, je pense à la Hongrie, qu'il y avait un réel avantage à avoir des siens ailleurs, particulièrement évidemment aux États-Unis et au Canada. En Australie, où il y en a, mais le rôle politique est le moindre. Mais pour les États-Unis, c'est un rôle extrêmement fort. Et l'on sait très bien, c'est une plaisanterie dans les milieux hongrois-américains que de dire que, en fait, le lobby hongrois est extrêmement important. Mais ce n'est pas vrai que pour les Hongrois. Donc, il y a un rôle très important que cette diaspora peut jouer sur les forces extérieures qui vont en retour influencer. Mais elles ont aussi un rôle plus ambigu vis-à-vis de l'intérieur. Parce que d'abord, la perception que l'on en a n'est pas toujours simple. On leur fait régulièrement un certain reproche de ne pas avoir vécu le plus dur des expériences historiques et donc d'avoir une vision partiellement déformée, étrangère. Et par ailleurs, la construction des identités, des mémoires et les actions que l'on mène sont très liées les unes aux autres. Et les gens de la diaspora, souvent, on tente d'avoir une action à l'intérieur de leur pays d'origine en relation avec l'expérience, le souvenir qu'ils ont eu 30 ou 40 ans auparavant et donc réintroduisent parfois maladroitement des jeux d'influence, des problèmes qui ne correspondent pas vraiment aux situations du présent et qui compliquent au contraire les situations du présent. Donc le rôle est plus complexe de ce côté-là.
Bonjour madame, j'ai une question en forme de remarque, ou une remarque en forme de question. Alors, Dans votre exposé qui a été remarquable, qui a très bien tenu compte de toutes les conditions de ce que vous avez appelé le contexte, il y en a un que vous avez peut-être oublié, c'est le contexte des influences climatiques. Parce que moi, je vais vous dire, après avoir vécu, avoir vu un ami en ex-Yougoslavie, à Tetovo exactement, je peux vous dire qu'il y avait un problème de distribution d'eau l'été en question. Parce que comme il n'y avait pas eu d'hiver assez, pendant l'hiver, il n'y avait pas eu assez de neige, il y avait des restrictions d'eau pendant la journée avec de 1h30 plus 1h. Ça ne suffit pas pour se laver. Et pour boire non plus.
Où est la question?
Bon, la question, c'est, vous ne pensez pas que l'analyse que j'ai faite aurait quelque intérêt? Je pense que ça a créé des problèmes nantis locaux, localement parlant. Un accroissement du sentiment du devoir de sécurité pour eux-mêmes et pour le peuple, ça a accru les sentiments de devoir de survie. Est-ce que c'est ça qui a fait, d'après vous, qu'il y a eu autant de situations conflictuelles localement? Merci.
Non, la question n'est pas mineure et la question de la répartition de l'eau dans le monde est une question géostratégique et conflictuelle qui va aller croissant, on le sait d'ailleurs très bien. Toutefois, en faire ici, dans le cas présent, un élément fort des troubles, des violences récentes, je crois que là, c'est erroné et que, en plus, pour une part, ce problème de répartition de l'eau et de manque d'eau, ici, n'était pas tant lié au manque d'eau de l'hiver précédent qu'à des problèmes de mauvais équipement des réseaux d'eau et de remise en question d'amélioration de tous ces réseaux. Donc, la question est à formuler autrement, je pense.
Bien, nous allons nous en tenir là. Merci beaucoup.